Pourquoi les DG, certaines DG, ne comprennent rien aux achats? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous propose de revenir ensemble sur peut-être quelques explications de cette situation, peut-être également quelques impacts directs qu'on peut mesurer pour les achats, mais surtout quelques pistes d'action pour changer la donne. Alors après cette vidéo, on ne pourra plus dire « non, j'ai rien compris aux achats ». Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pendant longtemps, en tant que directeur achat, je me suis posé cette question. Pourquoi ma direction générale, pourquoi le comité de direction ne mobilise pas plus ses ressources achats? Voilà. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques pistes d'explication. Parce que la seule chose dont je sois sûr maintenant, c'est que j'ai pas d'exemple d'organisation achat performante sans avoir un support à minima, voire une implication forte de la direction générale. Donc si jamais c'est pas le cas dans vos organisations, il faut vite analyser et prendre quelques décisions pour essayer de changer le mouvement. Bien sûr, c'est pas le cas de toutes les directions générales. Et certains déjà d'entre vous derrière l'écran sont en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Chez moi, tout va bien, ils ont tout compris. » Eh bien, c'est super. Je peux juste vous dire que statistiquement, c'est pas la moyenne des organisations que je rencontre. Pourquoi c'est une situation compliquée à comprendre? Premièrement, nous savons maintenant que les dépenses d'achat représentent en moyenne 60% du chiffre d'affaires d'une entreprise. En moyenne, c'est-à-dire que pour certaines de ces entreprises, je pense là aux entreprises industrielles, je pense à l'électronique, je pense à la grande distribution, on est sur des niveaux de dépenses qui sont bien supérieurs, qui peuvent avoisiner les 75-80%. Premièrement. Deuxièmement, on le sait aujourd'hui, et on l'a vu à travers les dernières crises que nous rencontrons, que les organisations achats mobilisent énormément leurs ressources externes pour accomplir la performance de l'entreprise. C'est-à-dire que le fournisseur, comme on l'appelle, il est devenu un maillon essentiel de la performance de l'organisation. Voilà, et ça pourrait être une deuxième des raisons qu'on s'intéresse énormément à ces fournisseurs. Mais on va y revenir. Et la troisième raison, elle concerne des thématiques dont vous parlez beaucoup au niveau achat, ils sont en train de se mettre en œuvre. On a beaucoup parlé d'apport à l'innovation, on a beaucoup parlé et on est en train de beaucoup parler de comportement face à l'environnement, face à la responsabilité sociale des entreprises, ces achats responsables. Eh bien voilà au moins trois bonnes raisons. Les données chiffrées sur les dépenses, l'impact financier, les données concernant l'importance des fournisseurs et notamment des fournisseurs stratégiques, et troisièmement, les données qui peuvent toucher à l'innovation ou aux achats responsables. Sur ces trois données majeures, on pourrait s'attendre à trouver des directions générales, c'est pas le cas. En tous les cas, c'est pas toujours le cas. Alors pourquoi cette situation? Voilà, quand ça marche pas, bien évidemment, on a souvent tendance à dire « c'est la faute de l'autre ». On verra que c'est un peu vrai, mais on verra aussi que c'est un peu vrai. Premièrement, j'ai voulu analyser un peu ce point parce que très souvent, et notamment quand j'ai créé ma société de conseil, je me suis posé cette question. Souvent, vous savez, on dit que quand on est dans l'entreprise, c'est plus compliqué d'engager le changement, d'initier les nouvelles idées. Alors je me suis dit en tant que consultant, ça va être super, ça va être facile. Mais pas toujours, en vérité. Pas toujours, pourquoi? Parce que pour le coup, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui ne change pas, c'est les directions générales. Et donc pour le coup, on a un travail important à réaliser. Alors j'ai essayé moi aussi de me dire, mais en fin de compte, c'est important, ils ne voient pas ce qu'ils pourraient gagner à lancer des initiatives, à recruter plus, à former plus leurs acheteurs, à leur donner plus de responsabilités, et j'ai essayé de comprendre pourquoi cette situation. Et j'arrive aujourd'hui à une conclusion que je vous partage. Le premier aspect que je veux partager avec vous, et là pour le coup c'est pas une bonne nouvelle pour vous les acheteurs, c'est qu'il y a très peu d'anciens patrons d'achat qui sont directeurs généraux. Alors, pour comprendre, on va essayer d'analyser la situation sur deux angles, les directeurs généraux et les acheteurs. Concernant les directeurs généraux, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Si vous êtes en train de me regarder, c'est que vous êtes un acheteur ou un responsable d'achat. Si vous êtes un directeur général, vous avez mon numéro en bas et vous pouvez m'appeler pour me dire que je raconte n'importe quoi et je serai heureux de vous donner la parole. Mais pour autant, si vous êtes un acheteur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, c'est que si vous m'écoutez, il y a peu de chances que vous deveniez un directeur général. C'est la mauvaise nouvelle de la vidéo. Alors oui, tout ça pour dire quoi? Pour dire simplement que les directeurs généraux, quand vous regardez leur parcours, leur cursus, très peu viennent des achats. Voilà. Et les quelques rares que nous trouvons sont souvent dans des organisations où le métier achat est très important. Hein, on pense souvent à l'automobile et puis on pense à notre vedette qu'on a citée pendant de nombreuses années. On cite un petit peu moins ces temps-ci. Carlos. Alors voilà, donc du coup, ça c'est le premier point, c'est un point important à comprendre, c'est-à-dire que les gens qui dirigent aujourd'hui les entreprises, les organisations dans lesquelles vous êtes, ils ne viennent pas du métier achat. Et donc ça veut dire que quelle est leur connaissance des activités achat, quelle est leur connaissance du métier, quelle est leur connaissance des pratiques, de ce qu'on peut en faire. Et c'est ici le début de nos problèmes. Ces directeurs généraux n'ont pas cette connaissance du métier et donc du coup n'ont pas eu à pratiquer le métier, n'ont pas eu à côtoyer le métier. Voilà, d'où viennent ces directeurs généraux? Alors j'ai regardé un petit peu pour essayer de trouver des chiffres, c'est pas évident, mais j'ai simplement fait un sondage parmi toutes les entreprises que je rencontre depuis un certain nombre d'années. Et bien aujourd'hui, on va dire que j'ai identifié 3 ou 4 grandes catégories. Premièrement, bien sûr, tout ce qui va concerner les opérations, les business units, les patrons de site, tous ces gens-là, c'est une filière qui peut amener à prendre une direction générale d'entreprise. Deuxièmement, la finance, bien évidemment, les directions financières sont aussi des directions qui permettent d'être un tremplin vers la direction générale. Et puis enfin, des directions métiers, et c'est par là qu'on pourrait essayer de trouver les achats, qu'on peut trouver un peu les achats de temps en temps, mais on va dire qu'on est plutôt sur des directions qui peuvent être des directions marketing, voilà, des directions plus proches du secrétariat général. Assez rarement des achats. Donc la première raison qui fait qu'on n'est pas entendu, on n'est pas compris, c'est que les gens qui nous dirigent n'ont pas vécu le métier achat. Alors maintenant, je me suis dit, ils l'ont pas vécu, mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Comment ils ont été formés? Comment ils ont été éduqués? Et là aussi, j'ai été un peu me plonger dans les programmes d'enseignement des grandes écoles. Alors, je suis allé regarder les écoles de commerce, hein, ces fameuses écoles de management, quelles qu'elles soient, les business schools. Et puis, j'ai regardé également les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles d'ingénieurs. Voilà. Et là, quelle a été ma surprise d'aller regarder ces programmes, qu'on soit sur des écoles de commerce ou qu'on soit sur des écoles d'ingénieurs, et je ne parle pas de spécialisation achat, eh bien, il y a très peu de temps consacré à la connaissance du métier achat. C'est-à-dire que ces jeunes qui sortent d'école de commerce ou qui sortent d'école d'ingénieur savent rien sur les achats. Hein, et pour vous en convaincre, je vous encourage à discuter avec certains d'entre eux, voire à en recruter dans vos équipes, parce que pour autant, ce sont des personnes très intéressantes, mais pour le coup, sur les achats, pas grand-chose. Donc ça veut dire que ces profils qui vont aller se destiner à des filières dont on a vu avant qu'elles pouvaient être des filières qui amènent à la direction générale, eh bien du coup, les achats, pas d'expérience. Voilà, ça c'est une première partie de l'histoire, une première partie de l'explication, hein, et si jamais il fallait avoir une preuve, je vous mets en lien également ce que j'ai pu trouver sur les parrains, voilà, les parrains d'école. Et bien du coup, c'est frappant et ça illustre tout. Les parrains des écoles de business sont souvent des patrons d'entreprise. Voilà, les patrons d'entreprise, les DG, n'hésitent pas à parrainer une école de commerce, parce que souvent ils en viennent, parce que souvent ils la connaissent, parce que souvent ils savent ce qu'ils vont en faire avec. Et si vous regardez maintenant les grandes écoles d'achat, ben quels sont les parrains de promo? C'est les patrons d'achat. Voilà, les grandes écoles d'achat, et pour avoir discuté avec tous les dirigeants de ces écoles, ont un mal fou à aller intéresser des directeurs généraux à venir parrainer des directions achats. Il y a quelques exemples, quelques contre-exemples. Pendant les belles années du MAI à Bordeaux avec Gordon, il s'est passé des choses intéressantes. Mais c'est assez rare et surtout, c'est pas du tout systématique. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, qui explique bien tout ce qui va se passer après dans votre vie opérationnelle, c'est que vos dirigeants ne connaissent pas beaucoup les achats. Mais alors, c'est aussi une opportunité. Voilà, ils connaissent pas beaucoup les achats, donc du coup, on va se dire, mais on a beaucoup à leur apprendre. Et c'est vrai, vous avez beaucoup à leur apprendre. Et c'est le deuxième point de ma démonstration. Quand c'est un peu leur faute et un peu la nôtre, c'est qu'au niveau achat, on n'y est pas. C'est qu'au niveau achat, on n'y est pas dans la manière dont on s'adresse à ces directions générales, dans la manière dont on va chercher leur support. Voilà, bien souvent, alors là aussi, et pardon pour cette vidéo qui forcément peut-être est un peu décalée par rapport à certains vécus que vous avez, et je l'accepte, mais dans la majorité de ce que je rencontre, voilà, les directions achats n'ont pas encore trouvé la manière de décoder la relation à la direction générale et sont souvent un peu dans le constat qu'on ne supporte pas, que les achats c'est la dernière roue du carrosse, que voilà, il y a un petit effet un peu caliméro. Voilà, et donc ça, c'est aussi c'est un constat qu'on vit, et pour ça, j'allais dire, ben là, pour le coup, la faute, elle est un peu chez vous. Elle est un peu chez vous, parce que quand je regarde la manière dont vous communiquez sur les achats, quand vous communiquez, certains d'entre vous communiquent peu sur le métier achat. Alors, vous êtes face à une direction générale qui a été mal éduquée ou qui n'a pas été éduquée aux achats, et puis vous, vous communiquez pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on en retient les achats, ce qu'on en retient de tout le monde quand on dit qu'on est acheteur. Bah, on est celui qui est là pour négocier les prix. Voilà. Alors, c'est un peu caricatural et c'est encore un petit peu une réalité dans nos entreprises et nos organisations. C'est ça qu'il faut changer. Alors, quand je dis qu'on ne sait pas leur parler, Ou plus exactement, on leur parle de choses qui ne sont pas toujours aussi intéressantes que ça pour eux. Premièrement, on leur parle des savings, des économies. Oui, on leur parle des savings, des économies. Et une fois encore, ça nous installe de manière un peu définitive sur cette notion de celui qui va aller chercher l'économie. Alors l'économie achat, hein, puisque après c'est un grand débat, vous le savez, avec l'économie du financier qui bien évidemment lui dit que les chiffres des acheteurs ne sont pas les siens. On a un gros boulot, on a un gros chantier. On y reviendra. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, regardez votre reporting achat. Qu'est-ce que vous racontez à votre directeur général tous les mois? Quels sont les messages que vous véhiculez? Voilà, quand bien même vous le faites. Et du coup, là aussi, il y a un gros boulot. Il y a un gros boulot de rendre sexy ce reporting. Alors, on ne se trompe pas sur le terme sexy. Sexy, c'est-à-dire intéressant pour l'autre. Vous êtes face à quelqu'un qui vous connaît peu, qui n'a pas été éduqué sur ce qu'il peut faire avec vous, et du coup, pour autant, qui est absolument indispensable dans le développement de votre organisation. Comment on va lui rendre des informations sexy, intéressantes? Il faut qu'il vienne s'intéresser aux achats. Qu'est-ce qu'on va faire? Posez-vous la question, qu'est-ce qui va faire que mon DG va trouver de l'intérêt dans le métier achat? Et ne pensez pas que c'est évident, parce que ce n'est pas évident pour lui. Qu'est-ce que vous dites à votre direction générale sur les fournisseurs stratégiques? Est-ce que vous êtes au clair sur la liste de vos fournisseurs, les actions que vous menez avec eux, en quoi ils sont stratégiques, combien de fois vous les avez rencontrés, quelles sont les initiatives qu'ils vous ont données? Voilà, je pense que sur ce sujet-là, là aussi, terrain, on balaye devant notre porte, on se met au clair et ensuite on en fait un levier d'intérêt. Il est évident que votre comité de direction va être intéressé à discuter avec vos fournisseurs stratégiques si tant est que vous ayez préparé le terrain. Et on sait que le terrain n'est pas prêt. Quand je vais en comité de direction, le terrain n'est jamais prêt sur les fournisseurs, c'est n'importe quoi. Voilà, incapable de me donner le nombre de fournisseurs, les fournisseurs stratégiques, le montant de dépenses. On n'est même pas capable, dans certains comités de direction d'entreprise, de lister les 5 plus importants fournisseurs de l'entreprise. Là où vos comités de direction sont intarissables sur le chiffre d'affaires de toutes les filiales, les parts de marché, les 3 premiers clients stratégiques, les 14 produits qu'on vient de lancer. Voilà, il y a un décalage extraordinaire quand vous avez l'occasion de les écouter entre ce qui se passe côté vente et ce qui se passe côté achat. Vous avez un terrain extraordinaire de rattrapage. Quelles sont les conséquences de cette situation? Elles sont très simples. On sait aujourd'hui qu'il n'existe pas d'organisation achat performante sans la maîtrise d'un pilier essentiel qui est le pilier de la relation à la direction générale, que souvent vous traduisez par il faut être présent au comité de direction. C'est en effet une partie de l'histoire, c'est pas la seule, on pourrait y revenir, mais en tous les cas, à minima, il nous faut un lien fort avec cette direction générale. Et ce lien, mais si vous l'avez pas organisé, il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, alors vous allez faire des achats, puisqu'on peut faire des achats, mais vous allez faire des achats qui forcément vont avoir un niveau d'ambition limité. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors, diront certains, ok, la DG n'est pas au rendez-vous, mais c'est pas grave, on avance, on a des besoins, on a des clients internes, on a des fournisseurs. Oui, c'est vrai, on fait le métier. Mais du coup, c'est un métier qui va manquer d'ambition, qui va manquer d'appui à un certain moment de son développement. Donc, pour démarrer l'histoire, encore que j'allais dire pour démarrer l'histoire, on pourrait le faire sans la DG. Ben non, ça veut dire que s'il n'y a pas de DG, justement, l'histoire, elle ne démarre pas. Il faut quand même une impulsion à un moment donné, et cette impulsion doit venir de la DG qui va vouloir installer la fonction et la développer. Puis ensuite, une fois qu'elle va avoir démarré, que vous allez gagner vos premières victoires, vous installer dans le paysage, vous allez avoir besoin encore plus de la DG pour franchir une étape. Voilà, le support d'une DG, ça va vous donner de l'ambition, ça va vous donner de l'exigence, et du coup, ça va tirer vers le haut la fonction achat. Si on n'a pas cette vision, si on n'a pas cette ambition, si on n'a pas support de l'ADG, on risque d'avoir une fonction achat qui va se cantonner à une dimension très financière du métier, voire pire, une dimension d'approvisionnement. Voilà. Et c'est encore quelquefois le cas dans certaines organisations. Quand on me décrit les activités de l'acheteur, le métier de l'acheteur, la manière dont l'activité est suivie, en vérité, on me parle d'approvisionnement. On n'est pas sur les achats, parce que justement, on n'a pas réussi ces étapes-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc du coup, c'est absolument essentiel. Et quelle est la conséquence pour cette direction générale qui ne connaît pas bien les achats? Eh bien, elle ne s'expose pas. Elle ne s'expose pas, elle ne prend pas de risques avec vous, elle ne parle pas de vous, vous n'êtes pas dans les plans, vous n'êtes pas dans les réunions, parce que du coup, elle n'a pas intégré cette dimension stratégique que vous déclamez haut et fort, et qui souvent est juste une déclaration de bonne intention, en vérité. Si vous étiez si stratégique, le directeur général connaîtrait exactement le montant des dépenses et les enjeux du plan achat qui est en train de se dérouler. Là aussi, combien de fois j'ai pu faire ce test? Quelles sont les ambitions achat de l'année en cours? C'est pas très clair. c'est pas très clair. Alors que le DG, ça soit pas clair, c'est très embêtant. Et souvent, c'est pas clair parce que chez vous, c'est pas très clair non plus. Voilà. Tant au niveau de la direction achat que de tous les acheteurs concernés, on doit avoir en tête très facilement les trois enjeux essentiels de l'année qui est en train de se dérouler, que ce soit sur la dimension économique, sur la dimension de l'innovation, sur la dimension des achats responsables. Des thèmes, vous en avez autant que vous en voulez. Il faut juste qu'ils aient de la résonance par rapport à la stratégie et l'environnement dans lequel vous êtes. Mais c'est essentiel. Quelquefois, cette situation, elle vient s'installer à plusieurs endroits. Premièrement, sur les chiffres. Voilà, souvent, on n'est pas à l'aise avec les chiffres, hein. Je parle des chiffres de dépenses, je parle des chiffres des familles d'achat, je parle des chiffres qui concernent les économies, je parle des chiffres sur le nombre de fournisseurs, etc. Il y a quelques données qui devraient être sur votre petite carte d'identité achat. On devrait avoir 4-5 chiffres. Tout le monde les connaît. Voilà. Je dis souvent aux acheteurs, d'ailleurs, soyez très à l'aise parce que sur le fait que vous connaissiez pas ces chiffres, personne ne les connaît. Donc, je vous demande simplement de pouvoir faire un travail qui vous permette d'identifier le montant de dépenses totales de l'organisation, les 3-4 premières familles d'achat pour marquer les esprits, le programme de performance économique qui est en cours, le nombre de fournisseurs stratégiques. Voilà. Avec ça, vous avez 4 données chiffrés qui peuvent être communiqués, sur lesquels on va marteler, on va installer des messages, mais aussi on va installer des premières actions. C'est pas compliqué. Et une fois encore, soyez pas timide dans l'obtention de ces chiffres. Personne ne les a, ces chiffres. Donc donnez-les, défendez-les, organisez-les, et puis affinez-les, parce que vous êtes en train de mettre en place des outils, des situations qui vont vous permettre d'être plus précis. Deuxième sujet, je pense que c'est un sujet important sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo, votre politique achat. La politique achat, c'est l'outil qui va faire le lien entre la stratégie de votre entreprise et les orientations achats que vous avez données. Voilà. Si vous n'avez pas cet élément de politique achat, vous oubliez premièrement un élément de communication fort, et deuxièmement, vous oubliez un élément qui va vous lier à la direction générale, parce que cette politique achat, elle est souvent issue d'une discussion forte que vous avez avec votre dirigeant sur sa stratégie, ses orientations, pour que vous puissiez venir contribuer. Donc du coup, ça c'est un élément qui vient aussi handicaper l'installation de la relation avec la DG. Troisième élément que je vois assez souvent, la gouvernance. Voilà, les achats, ce sont des besoins qu'il va falloir qu'on opère sur des marchés fournisseurs, avec des stratégies, avec des approches, des techniques, des pratiques. Voilà, c'est un métier, on le sait tous, de plein de bon sens. C'est un métier qui nécessite quelques savoir-faire. Et du coup, c'est un métier sur lequel il y a des règles, hein. Je ne parle pas que des procédures que vous avez souvent mises en œuvre, ou en tous les cas écrites, hein, plus ou moins appliquées. Je vous parle des gouvernances, des règles du jeu, c'est-à-dire qui définit la stratégie, qui décide du choix du fournisseur dans le panel, qui communique avec un fournisseur, qui négocie. Voilà, tout ça, c'est des éléments de gouvernance. Donc, si jamais elles n'ont pas été établies, ces gouvernances, eh bien forcément que ça va vous handicaper, parce que chacun a son regard. Et n'oubliez pas, une fois encore, vous êtes très peu dans l'organisation à avoir été éduqué, voire formé aux achats. Voilà, donc n'en voulez pas à un patron d'un service technique de discuter avec le fournisseur, parce que pour lui, c'est pas négocier, c'est ce que vous allez faire après. Et vous savez que malheureusement, la négociation, elle est abîmée, voire terminée. Donc du coup, la gouvernance, c'est le troisième pilier qu'il vous faut vraiment travailler pour installer ce regard. Parce que cette gouvernance, ces règles que vous allez imaginer, il va falloir aller les définir avec la DG pour les faire valider. Et puis enfin, le dernier point que je voudrais partager avec vous sur les impacts de cette situation, c'est un point qui touche au comportemental. Et ça, c'est un point qui me tient à cœur, c'est-à-dire que au-delà des techniques, des outils, de ce que vous allez mettre en place, il y a une dimension qui est essentielle dans le métier d'acheteur, c'est la dimension du comportement. Voilà. Et je crois fondamentalement qu'un acheteur est là pour faciliter, pour améliorer, pour permettre. Voilà, là où j'entends encore trop souvent de phrases du style, vous savez, on est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Voilà, et du coup, c'est terrible parce que comment voulez-vous qu'avec ce type de comportement, vous puissiez organiser des relations en interne, travailler sur des dossiers. Voilà, si vous êtes vu comme des empêcheurs, eh bien du coup, il n'y a pas de souci, ils vont s'empêcher de travailler avec des empêcheurs. Voilà, et donc forcément, ben, une fois encore, on rajoute une difficulté sur nos autres difficultés. Donc, inverser cette tendance, faciliter la coopération, collaborer, il y a plein de bons exemples, hein. Moi, je suis obligé d'insister sur ce que je pense qu'on pourrait améliorer. Heureusement, vous êtes nombreux à m'écouter, et pour nombreux, ça c'est des vieilles histoires. Mais encore quelquefois, on rencontre cette dimension de fonction achat qui est vue un peu comme un castrateur, comme un empêcheur, comme un contrôleur. C'est pas votre job. Vous êtes là pour accélérer et favoriser les actions de business. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va voir les pistes d'action. On a une direction générale qui nous mobilise peu, qui nous calcule peu, comme diraient certains, et puis on a une direction achat qui peut-être n'a pas complètement joué sa partition pour être en rendez-vous. Donc déjà, ce que je vous propose en première intention, jouez complètement votre partition. Soyez au clair sur votre politique achat, sur votre plan achat, sur vos stratégies, sur votre programme de communication. Tout ça, il faut que ça soit au carré de votre côté. Mettez ces éléments-là au clair, ça dépend que de vous. Et puis maintenant, je vais vous donner 5 pistes très concrètes pour changer la donne sur la relation entre une direction générale et une direction achat. Première piste, la politique achat. J'y reviens, réécrivez votre politique achat quand même elle existe. Écrivez-la si elle n'existe pas. Et du coup, pour l'écrire, allez voir votre directeur général. C'est un excellent moyen d'aller lui expliquer ce qu'est une politique achat, pourquoi vous en avez besoin, comment il va collaborer à l'écriture ou en tous les cas à l'information sur cette politique achat et du coup, pourquoi ça va être bien pour lui qu'il y ait une politique achat. Prenez des exemples des politiques RH, des politiques commerciales, des politiques d'investissement et montrez à quel point la politique achat étant inexistante, ça l'empêche. Voilà, ça c'est un premier point, c'est important, c'est concret et c'est un point où on démarre très vite la relation avec son DG. Deuxième point, parler de son tableau de bord, parler du reporting du DG. Voilà, qu'est-ce que vous lui envoyez et à quelle fréquence? Parce que bien souvent, on fait ça un peu tout seul, on pousse des informations qu'on pense être utiles pour lui, parce que surtout on sait les utiliser pour nous, c'est un mauvais calcul. Voilà, renversez la situation, dites-lui qu'est-ce que vous voudriez que je vous raconte tous les mois? Qu'est-ce qui est important pour vous à savoir sur le métier achat? Soyez pas surpris que quelquefois, c'est un peu pauvre, la réponse qui revient en retour, mais c'est pas grave, vous êtes là pour alimenter. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'économie? Est-ce que vous voulez qu'on parle de fournisseurs? Est-ce que vous voulez qu'on parle de projet? J'ai une formidable anecdote à vous raconter. J'étais patron achat de Biomérieux dans les années 2000, et le directeur général de Biomérieux, tous les mois, je lui envoyais mes informations sur l'organisation achat. Et tous les mois, j'avais assez peu de retours sur ces informations. Alors j'avais fait le tableau de bord avec les chiffres, les économies, les projets sur lesquels on travaillait, voilà. Et un beau jour, il m'a dit, bon, et c'est moi qui lui ai posé la question, mais comment se fait-il qu'il n'y ait jamais de retour? Est-ce que ça vous convient à tel point qu'il n'y ait pas de retour? C'était plutôt mon inquiétude. Et bien évidemment, ça ne lui convenait pas parce qu'il en faisait assez peu état de ce reporting. Et donc, il m'a dit simplement, Fabrice, j'aimerais que tous les mois, vous puissiez me parler des 7 projets qui vont constituer l'avenir de Biomérieux. Et sur chacun de ces projets, j'aimerais juste que vous me fassiez un petit smiley avec un petit bonhomme qui sourit ou qui fait la tête pour me dire, est-ce que du regard du métier achat, vous pensez qu'on est en train de faire ce qu'il faut sur ces projets. Voilà, ça sera ça votre tableau de bord à partir d'aujourd'hui. Et bien du coup, ça m'a changé la vie. Alors après, la vie n'était pas simple, parce que le petit smiley qui fait la tête ou qui fait pas la tête, il faut aller le normer, et puis il faut aller l'organiser avec ses équipes. Mais vous voyez, jamais j'aurais eu l'idée de dire mon reporting achat pour le directeur général d'une entreprise comme Biomérieux, qui avait déjà un très bon niveau de maturité achat, et bien du coup, ce reporting, c'était uniquement de pouvoir identifier quel est l'état dans lesquels les projets sont conduits avec les organisations achats. Ça, c'est un bon exemple. Troisième élément qui va vous aider clairement à améliorer la relation avec votre DG, créer un plan achat, un programme, un plan d'action achat, comme on l'appelle dans l'univers public, qui soit sexy. Quand j'entends par sexy, qui soit intéressant pour votre DG, qu'il ait envie de se battre pour ce plan, qu'il ait envie de vous poser des questions sur ce plan, qu'il ait envie de communiquer sur les bons résultats de ce plan. Voilà, donc créer ce plan, on va y mettre tout ce qui est important pour vous. Bien, soyez pas inquiets, il y aura la dimension financière, mais pas que, il y a plein d'autres sujets qui peuvent intéresser une direction générale, donc créez un plan qui va mobiliser vos équipes, l'entreprise, vos fournisseurs, et qui va donner envie à votre DG de s'en occuper. Voilà, une fois encore, le DG, je peux vous dire qu'il est au clair sur les objectifs de chiffre d'affaires, les objectifs de construction des nouvelles usines, les objectifs RH, eh bien, il faut qu'on lui mette les achats dans la tête, tout simplement, et un plan achat qui est bien construit, voilà, qui est suffisamment dense, mais qui va sur l'essentiel, votre directeur général, c'est sûr qu'il l'aura dans la tête. Et quand il va vous croiser, il va vous demander des nouvelles de ce plan. Voilà, certains ont été jusqu'à le baptiser, à donner un nom, peu importe, si ça doit aider, faites-le. Bâtissez un plan qui se rentre dans la tête de votre directeur général. Quatrième piste, vos fournisseurs. Vos fournisseurs stratégiques, c'est l'exact moment avec la crise que nous vivons de s'intéresser à eux. Il faut vraiment que vous soyez très au clair. Le panel de ces fournisseurs, quels sont ceux qui sont à risque? Quels sont ceux avec qui on est en train de nouer des liens encore plus forts? Peut-être quels sont ceux qu'on a aidés pendant cette période? Quels sont ceux qui nous ont aidés pendant cette période? Voilà, ces fournisseurs stratégiques, il faut que vous ayez un thème ici de communication et il faut que vous impliquiez la DG. Voilà, faites rencontrer vos fournisseurs stratégiques par votre directeur général. Voilà, prenez un rendez-vous une fois par mois, ça en fera 10 sur l'année. 10. Il va discuter avec le directeur général de l'entreprise d'en face, parce que si vous dites à votre responsable commercial que vous rencontrez régulièrement, que votre DG aimerait bien le rencontrer, je peux vous dire que ça va être le DG de l'entreprise qui va venir, et on crée des liens à d'autres niveaux. Hein. Alors ici, on parle des fournisseurs stratégiques, hein, on ne va pas l'organiser avec tous nos fournisseurs, et on parle de quelques fournisseurs, mais vous engagez la démarche. Voilà. Et si c'est réussi, vous allez voir à quelle vitesse votre DG va s'intéresser à cette relation avec les fournisseurs stratégiques. Ça, c'est ma quatrième action concrète qu'on peut dégager. Et puis enfin, la cinquième action, ben comme souvent dans mes vidéos, vous le savez maintenant, c'est la communication. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez organisé toute cette dimension, organisez une communication régulière auprès du DG, avec ses actions, vous l'avez initié, auprès du comité de direction. Voilà, si vous n'êtes pas membre du comité de direction, obtenez l'autorisation 2, 3, 4 fois dans l'année d'aller passer la tête, d'aller proposer un suivi du plan d'action, d'aller donner de l'information sur des stratégies, c'est très apprécié. On est dans le métier, on est dans la communication de ce qu'on fait, on est dans l'interaction avec les dirigeants de l'entreprise, on est dans la communication, vous avez tout pour le faire et vous avez organisé le dispositif. Voilà, 5 actions concrètes pour retrouver du lien avec un directeur général qui ensuite va venir à l'ouverture de vos séminaires, qui va venir saluer votre équipe et qui du coup dans ses vœux parlera des achats, parlera de ce qui est fait à la direction achat. Voilà tout le mal que je vous souhaite. Je voudrais juste qu'un jour on ne puisse plus dire les directions générales ne connaissent rien aux achats. Voilà pourquoi c'est important de s'occuper de son directeur général. Je vous l'ai dit, je n'ai pas d'exemple, aucun exemple d'organisation performante sans qu'on ait réussi à créer un lien fort entre la direction générale et la direction achat. Ça passe souvent par des relations entre le DG et le directeur achat, mais cette relation est importante. Voilà. J'ai travaillé sur les piliers d'une organisation achat performante, j'en ai identifié 9. Sur ces 9, il y a la direction générale. Ça veut dire que si vous n'êtes pas bon à cet endroit-là, vous ne pouvez pas franchir une étape. Voilà. Vous ne jouerez pas la Champions League des achats. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez le pouce bleu, ça m'encourage à continuer à vous passer de l'information, à échanger avec vous. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sous la vidéo, ce sera avec grand plaisir que j'échange avec vous. Et puis enfin, vous pouvez vous abonner, comme ça vous avez en avant-première la parution des prochaines vidéos. À très bientôt.